5h18.
Chapitre 93. Le naufragé.
Quelques jours seulement après notre rencontre avec le Français, un événement considérable survint au plus insignifiant des marins du Pécode, incident lamentable ô combien dont l'effet fut de fournir un vaisseau prédestiné, jovial, parfois au-delà de toute raison, la fidèle compagnie d'une prophétie vivante de la catastrophe qui serait peut-être la sienne. Il faut savoir que sur un navire, tous les hommes d'équipage ne montent pas dans les baleinières. Quelques marins appelés gardiens du navire restent à bord et assurent la manœuvre du bâtiment tandis que les pirogues chassent le gibier. En règle générale, ces gardiens sont des gaillards aussi vigoureux que ceux qui composent les équipages des embarcations. Mais s'il se trouve à bord un gars particulièrement fluet, maladroit ou craintif, on en fera à coup sûr un gardien. C'était le cas sur le Pécode du petit nègre qui portait le sobriquet de Pépin, devenu Pipe pour abréviation. Pauvre Pipe, vous le connaissez déjà. Vous n'avez sans doute pas oublié son tambour de basque lors de cette scène nocturne sinistre et joyeuse à la fois. Pour ce qui est de l'apparence, Pipe et Boulette de Farine faisaient la paire. Comme un poney noir et un poney blanc, également développés, mais de couleurs dissemblables, attelés en une paire extravagante. Mais tandis que le malheureux Boulette de Farine avait par nature l'esprit obtus et cerveau endormi, Pipe, lui, bien que doté d'un cœur trop tendre, était au fond très vif. Il pétillait de cette gaieté généreuse propre à sa race. Une race qui prend à toutes les fêtes et réjouissances un plaisir plus fin et spontané que n'importe quel autre. Pour les Noirs, le calendrier ne devait comporter que 365 jours de fêtes nationales et le Nouvel An. Et gardez-vous de sourire quand j'écris que ce petit noir était brillant, car même la noirceur a son lustre. Voyez par exemple les rutilantes boiseries d'ébène dans les appartements des rois. Mais Pipe aimait la vie et tout ce que la vie offre de paisible sécurité. De sorte que ce métier de toutes les terreurs dans lequel il s'était fait prendre, inexplicablement, comme dans un piège, avait terni son éclat et de plus triste façon. Pourtant, on verra bientôt que ce qui s'était en lui temporairement assourdi était voué à s'illuminer d'étranges feux. Feu blafard et violent qui allait artificiellement décupler le rayonnement naturel, tout dont autrefois, dans le comté de Tolland, de son Connecticut natal. Et il avait réchauffé au son du violon plus d'une fête de village. Son allégresse parmi les mélodies du soir, transformant le cercle de l'horizon en un immense tambourin au grelot d'étoiles. Ainsi, bien que dans la clarté du jour, le diamant de l'eau la plus pure brille de santé quand il est suspendu à un coup veine de bleu, l'habile joaillier, s'il veut vous montrer la pierre dans son plus admirable éclat, le posera sur un fond sombre, puis le fera resplendir, non pas au rayon du soleil, mais plus ardent, sous la lumière du gaz. C'est alors qu'elle jette ses feux les plus ardents, d'une splendeur infernale. C'est alors que le diamant aux étincellements maléfiques, jadis le plus divin symbole des cieux de cristal, semble une gemme volée à la couronne du prince de l'enfer. Mais revenons à notre histoire. Il se trouva que, lors de l'épisode de l'ambre gris, le canotier d'arrière de Stubb se foula le poignet et fut quelque temps estropié. Pip rit donc temporairement sa place. La première fois que Stubb mit à la mer avec lui, Pip se montra d'une grande nervosité, mais par bonheur, ce jour-là, tout contact immédiat avec le cachalot lui fut épargné, de sorte qu'il s'en tira sans trop de déshonneur. Cependant, Stubb, qui l'avait observé, prit soin par la suite de l'exhorter à se munir de tout son courage, car il pourrait en avoir souvent besoin. La seconde fois, la baleinière nagea tout droit sur le cachalot en recevant le fer. Le poisson donna l'habituelle secousse. Dont l'effet se fit sentir alors juste sous le banc du pauvre. Saisi. Ah.
Du pauvre Pipe.
Oui, je sais. Donc, dont l'effet se fit sentir alors juste sous le banc du pauvre Pipe. Saisi d'une peur panique, il sauta par-dessus bord, la pagaie à la main, mais de telle manière que le mou de la ligne, venant à sa hauteur, s'enroula autour de sa poitrine au moment du plongeon. À cet instant même, le cachalot blessé se lança dans une course effrénée. La ligne se tendit soudain, et voilà notre pauvre Pipe ruisselant d'écume, prestement hissé jusqu'au taquet du plat-bord, entraîné sans ménagement sur la ligne qui enserrait de plusieurs tours la poitrine et son cou. Tashtego se tenait debout à l'avant. Il était excité par l'ardeur de la chasse. Il haïssait Pipe. À ses yeux, un poltron tirant le couteau de pirogue de son fourreau. Il en approcha la lame affilée de la ligne et, se tournant vers Stubb, l'interrogea. Coupé ? À ce moment, le visage de Pipe, bleui par la suffocation, disait clairement « Coupé, pour l'amour de Dieu ». Tout se passait en un éclair. La scène ne dura pas plus d'une demi-minute. « Maudit soit-il ! Coupé !» rugit Stubb. Ainsi le cachalot fut-il perdu et Pipe sauvé. Le pauvre petit nègre avait à peine recouvré ses esprits qu'il fut assailli de cris de rage et d'impréciation. Stubb attendit avec calme que se fût dissipé ce torrent d'injures, tout contraire à toutes les règles, puis d'une voix posée, en termes clairs, mais toujours à demi plaisant, il donna à Pipe sa malédiction officielle. Après quoi, officieusement, il lui prodigua maints conseils salutaires qu'on résumera comme suit. « Ne saute jamais d'une pirogue, Pipe, sauf !» Mais tout le reste était vague, comme le sont toujours les plus sages conseils. Le principe sacré de la pêche est « accroche-toi à la pirogue ». Mais il arrive que dans certains cas, « saute de la pirogue » soit préférable. Puis, comme s'il comprenait enfin qu'en mettant trop de scrupules dans ses exhortations à Pipe, il laissait à ce dernier une marge excessive pour renouveler son plongeon. Il renonça soudain à toute recommandation et conclut par un ordre péremptoire. « Accroche-toi à la pirogue, Pipe, ou, par Dieu, je ne te repêcherai plus si tu sautes. Tâche de t'en souvenir, nous ne pouvons pas nous permettre de perdre des cachalots pour des gars de ton espèce. Un cachalot, Pipe, vaut 30 fois ce qu'on donnerait pour toi en Alabama. Ne l'oublie pas et ne saute plus jamais. » Stubb, se disant, suggérait peut-être de manière indirecte que l'homme, bien qu'il aime son semblable, est un animal qui fait argent de tout et que ce penchant entrave trop souvent sa bienveillance. Mais nous sommes tous entre les mains des dieux et Pip sauta une nouvelle fois. Cela se passa dans des circonstances assez semblables et sa première mésaventure, mais alors il n'emporta pas la ligne avec lui, de sorte que lorsque le cachalot prit la fuite, Pip resta en arrière sur les flots, telle la malle d'un voyageur pressé abandonne derrière lui. Hélas, Stubb ne fut que trop fidèle à sa parole. C'était sous le ciel d'azur, d'une très belle et magnifique journée, la mer pailletée, calme et fraîche, étirait jusqu'à l'horizon sa surface étale, pareille à la baudruche sur laquelle le lamineur amincit de feuilles d'or. La tête d'ébène de Pip flottait sur l'eau comme un clou de girofle. Nul ne saisit le couteau de pirogue quand le garçon tomba si vite de la poupe. Le dos de Stubb resta tourné inexorablement et la baleine avait des ailes. En 3 minutes, un mille d'océan sans rivage avait éloigné Stubb de Pip. Du centre de l'océan, le pauvre Pip leva sa tête noire aux cheveux crépus vers le soleil, cet autre naufragé solitaire. Pourtant le plus haut dans le ciel et le plus brillant de tous. Par temps mou, il est aussi facile pour le nageur expérimenté de nager en pleine mer que pour un terrien de voyager dans une voiture suspendue. Mais la solitude est atroce, insupportable. L'intense repliement de l'être sur lui-même au milieu d'une si cruelle immensité, mon Dieu, que saurait l'exprimer ? Voyez comme les marins, quand ils se baignent au large lors d'un calme plat, se serrent tout contre leur vaisseau et jamais ne s'éloignent de ses flancs. Mais Stubb avait-il vraiment abandonné le pauvre petit nègre à son sort ? Non. Du moins, n'en avait-il pas eu l'intention. Car il y avait 2 baleinières dans son sillage et il imaginait, bien sûr, qu'elles auraient tôt fait de rejoindre Pip et de le repêcher. Bien que, pour dire vrai, de tels égards envers le canotier qui se trouve en péril du fait de son propre manque de courage ne soient pas monnaie courante chez les chasseurs dans ce genre de situation. Pareilles occurrences ne sont pas rares, et dans le monde de la pêche, le couard présumé est presque toujours aussi implacablement haï que dans l'armée de la marine militaire. Mais il advint que ces 2 baleinières qui n'avait pas vu Pip, apercevant soudain des cachalots tout près, virèrent de bord et se lancèrent à leur poursuite. La pirogue de Stubb était à présent bien loin et ses hommes et lui-même si fort absorbés par leur chasse que l'horizon tout autour de Pip élargit peu à peu son cercle affreusement. Le navire, par le plus grand des hasards, finit par le recueillir. Mais à partir de 7 heures, le petit nègre erra sur le pont tel un idiot. C'était du moins ce qu'on disait de lui. La mer, en ricanant, avait épargné son corps fini, mais noyé l'infini de son âme. Ne l'avait pas noyé tout entière, cependant, mais plutôt entraîné vive jusqu'à la merveilleuse, les merveilleuses profondeurs où sous son regard passif glissaient ça et là les formes étranges du monde premier encore inaltéré, où Sapiens, le triton avaricieux, révèle ses montagnes de trésors, et parmi ces éternités de joie cruelles et jeunes à jamais, Pip vit les armées d'insectes coralliens, présence divine hissée hors du firmament des eaux, les orbes gigantesques. Et il vit le pied de Dieu sur la pédale du métier à tisser, et il dit cela. Ses compagnons dès lors le traitèrent de fou. C'est ainsi que la déraison de l'homme est la sagesse du ciel. Et l'homme, en s'éloignant de toute raison humaine, parvient enfin à cette pensée céleste que la raison juge absurde et délirant. Et heure ou malheur, il se sent alors libre de toute attache, indifférente comme son Dieu. Pour le reste, ne jetez pas sur Stubb un blâme trop sévère. La chose est courante dans la pêche baleinière, et l'on verra par la suite de ce récit qu'un semblable abandon m'échut en partage.